CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Et bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Dans ce MAG, on vous parlera patrimoine avec le pont de sauvegarde en cours sur les communes de Montricou et de Bruniquel. Mais avant ça, c'est les rendez-vous des mémoires ce week-end à Sept-Fonds au théâtre Le Florida. Deux rendez-vous proposés par l'association Pierre Nègre. La 10e édition des rendez-vous des mémoires et des histoires parlées et chantées de populations déplacées. Samedi, c'est le collectif La Bohème sur les planches du théâtre Le Florida. Et vendredi soir, la compagnie Lopez sera à partir de 21h pour le spectacle Exil et Transmission. Guillaume Lopez est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chanteur toulousain. Vous parcourez le monde autour de la musique des pays d'oc et de la musique espagnole. Je crois que c'est la musique de vos origines, tout ça.
Tout à fait. En fait, moi, j'ai découvert l'occitan complètement par hasard quand je suis passé au lycée, autour de 18-20 ans. Et de découvrir cette langue, cette culture occitane, ça m'a aussi fait prendre conscience de mes origines espagnoles, puisque je suis fils de républicain espagnol. Mes quatre grands-parents ont fui l'Espagne pendant le franquisme. Et du coup, depuis une vingtaine d'années, je suis musicien professionnel, mais ma musique, elle raconte ça. Elle raconte cette Toulouse, qui est une terre d'accueil, où il y a plein d'origines différentes qui se côtoient, où la musique occitane, pour moi, c'est un vecteur d'échange avec l'autre. Et voilà, là, j'ai la chance de pouvoir rejouer à cette fois, ce vendredi, un spectacle que j'avais appelé Recuerdos, la retirada et l'exil à l'époque, qui va être parsemé de témoignages de mes grands-parents et de chansons de cette époque-là, avec un trio de fabuleux musiciens dont je vous parle dans un instant, si vous voulez.
Eh ben, allons-y.
Alors, j'aurai la chance d'être accompagné de des musiciens de cette création Recuerdos, qu'on avait créé en 2015 avec la scène nationale de Tarbes. Donc, il y aura Morgan Astruc à la guitare et Simon Portefay aux percussions. Et en guest un petit peu exceptionnel, on aura la chance d'avoir Serge Lopez aussi avec nous à la guitare, qui est un guitariste bien connu du milieu musical toulousain. Donc voilà, on va avoir une musique vraiment tournée autour de la Méditerranée, de l'Espagne, du flamenco, du jazz. Et moi, je vais chanter donc essentiellement en espagnol, et un petit peu en occitan et un petit peu en français.
Autour du vivre ensemble, donc.
Absolument, autour du vivre ensemble, dans les poètes que je chanterai vendredi, il y a un poète toulousain que j'aime beaucoup qui s'appelle Alem Suré Garcia, qui a récemment sorti un livre qui s'appelle La Convivencia, ce concept qui était très cher à l'époque déjà des troubadours et qui est très à la mode aujourd'hui dans la bouche des politiques d'aujourd'hui. Lui, il a défini la convivencia comme l'art de vivre ensemble dans le respect mutuel de l'altérité. Donc c'est ce qu'on va essayer modestement de proposer pendant ce concert, une espèce d'écoute, de respect de l'autre et le fait qu'on s'enrichisse mutuellement par la musique et par les histoires de chacun.
Oui, vous l'avez dit, la musique et les histoires, puisque c'est un concert entrecoupé donc d'histoires. Vous le disiez, de vos grands-parents qui ont fui l'Espagne en 1939. Le fait que vous jouiez là sur la scène du Florida, de Sept-Fonds, juste à côté du camp de Jude, c'est aussi un petit pincement au cœur, non ?
Oui, c'est quelque chose de très très fort. Alors c'est vrai que les prémices de ce spectacle, Recuerdos, il date du début des années 2010, où j'avais encore la chance d'avoir mes quatre grands-parents à l'époque. Et c'est vrai que mon grand-père Vidal, Francesc Vidal, mon grand-père maternel, à force de devoir répondre à mes questions, puisqu'il avait caché ça pendant plus de 40 ans, c'était vraiment quelque chose de tabou à la maison. Donc c'est vrai qu'à force que je lui pose des questions, il a écrit ses mémoires. Il m'a dit, tiens, prends ça et débrouille-toi avec, je me souviens très très bien. Et du coup, j'en ai fait un livre qui est sorti chez un éditeur tarné qui s'appelle Vinteral, où il raconte donc cette vie de mon grand-père maternel. Et mon grand-père paternel, qui venait d'Andalousie, lui de Granada, c'était quelqu'un qui n'avait pas vraiment de culture politique, un ouvrier vraiment du peuple, si je puis dire, et qui lui, par contre, il avait un très très fort attachement à la musique et au flamenco et à la variété. Donc un m'a transmis l'histoire, l'autre m'a transmis le répertoire, Et c'est vrai que ça a été pour moi un honneur de pouvoir retranscrire ça sur scène quand on a créé ce spectacle-là. Et puis le fait de jouer là, dans ce territoire où il y a un camp, comme on l'a déjà joué à Rivesaltes, comme on l'a joué au Pertus, comme on l'a joué à la Jonquière, comme on l'a joué à Argelès-sur-Mer, c'est quelque chose de très fort qui a du sens. Et je remercie beaucoup le Rendez-vous des Mémoires d'avoir pensé à nous pour ce concert, parce que voilà, on est en fond, justement, on est complètement dans le lien entre hier et aujourd'hui avec cette transmission, ne pas oublier cette histoire de faire vivre les mémoires. Et je suis très très content de faire ce spectacle-là à cette fin vendredi.
Alors votre mémoire à vous, donc de l'Espagne à l'Occident, ça c'est pour la musique, transmission paternelle donc, et puis de l'autre côté, et pour le nom de ce spectacle, donc Exil et Transmission, et du fait que vous avez sorti les avirons pour faire sortir à votre grand-père donc son histoire, ça implique l'importance de parler, de transmettre, hein. Et ça par le biais là, donc, de la musique, ce que vous allez faire donc, sur la scène du Florida de ce vendredi, c'est ça aussi l'important, c'est de pouvoir faire en sorte que l'histoire ne se répète pas.
Oui, alors c'est vrai que c'est ce qu'on dit, faire en sorte que l'histoire ne se répète pas, mais malheureusement, l'histoire, elle ne cesse de se répéter. On a l'impression que l'histoire, c'est une succession de guerres, d'exil, de gens qui fuient, de gens qui sont mal accueillis, de gens qui s'intègrent, de gens qui se battent, de gens qui se mélangent, de gens qui se croisent et qui s'apportent les uns les autres, même si ça leur fait pas plaisir. Et c'est vrai que nous, voilà, on est plutôt... En tout cas, mon équipe et les musiciens qui travaillent dans cette idée-là, justement, d'apprendre de l'autre, de donner ce qu'on sait, d'échanger, d'être dans la générosité, dans l'apprentissage, de se rendre compte qu'on n'est rien sans l'autre. Et c'est vrai que, voilà, quand on a la chance de pouvoir l'exprimer sur scène, il faut en profiter. Quand on a la chance de pouvoir le proposer à un public, voilà, moi, le premier, en tant que public, il m'arrive très souvent d'aller voir des concerts, et moi, j'ai besoin de découvrir une musique, elle me parle quand je sais d'où elle vient, même si elle a différentes provenances. Un chanteur, un musicien, il va me toucher s'il raconte son histoire, s'il fait quelque chose de sincère. Mmh. Et là, on va être là-dedans, dans quelque chose de simple. Voilà, voilà d'où je viens, voilà qui je suis, voilà ce que je vous propose.
Alors, l'histoire tragique et de la chanson espagnole, les créations originales en français, à vous qui sont plutôt joyeuses, on peut en entendre des extraits. Est-ce que la joie, c'est aussi ça, la transmission?
Oui, parce que il y a quelque chose de... Voilà, mon grand-père, comme je vous disais, mes grands-parents, pendant 40 ans, ils n'en ont pas parlé. Ils se sont construits avec ça dans le secret, et au fur et à mesure, ils avaient presque oublié cette histoire-là. Donc il y avait quelque chose, voilà, ils avaient mis un mouchoir dessus jusqu'à ce que je les réveille, et moi, ils me l'ont transmis sans plainte, sans tristesse, comme quelque chose de positif. Moi, je quand je me suis rendu compte de ça, de cette histoire familiale, en fait, au départ, je me suis dit, oh là là, mais mes grands-parents, les pauvres, en fait, et c'est vrai que, effectivement, les pauvres, mais par contre, ils ont fait de moi, ils ont fait de nous, de notre famille, des gens qui parlons trois langues, qui avons trois cultures, qui sont donc des gens infiniment plus riches que les gens qui n'ont qu'une langue ou qu'une culture, en fait. C'est quelque chose de fort d'être quelqu'un de divers. Voilà, on est tous quelque part dans la diversité des êtres complexes. Et là, moi, j'ai reçu ça de la part de mes grands-parents. Donc c'est quelque chose qui me donne en plus envie d'en découvrir encore plus de langues, plus de cultures, plus de d'us, plus de coutumes, plus de façons de vivre et de penser. Et c'est quelque chose de très très positif, en effet.
Et donc d'ouvrir des portes, c'est pour ça qu'elles sont là, sur scène?
Alors effectivement, il y avait des portes. Vous faites allusion à une captation de ce spectacle-là. Il y aura une émotion supplémentaire, puisque j'ai tourné pendant, on va dire, 7-8 ans, ce concert Recuerdos, avec un plasticien sur scène, avec un décor. Et ce monsieur s'appelait Bernard Coapé, et il nous a malheureusement quittés il y a un mois de ça. Donc ce sera la première fois qu'on va faire ce spectacle sans la peinture, sans sa présence, sans son humour, sans sa personnalité. Donc voilà, je vais essayer quand même de faire un petit clin d'œil à Bernard pendant le concert, parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté. Mais malheureusement, il n'y aura pas de décor et pas de peinture en live ce coup-ci.
On le salue. Est-ce que vous pouvez nous raconter une histoire peut-être qui vous a touché, qui vous a incité à écrire ce spectacle, donc on va pouvoir venir ce vendredi voir une histoire qui vous a été racontée donc par un grand-père, quelque chose qui vous a poussé à la transmission, un détail, une anecdote?
Oui, des anecdotes. Ce qui a été très fort, c'est qu'à partir du moment où mes grands-parents se sont livrés, il y a eu une espèce de relation fusionnelle avec eux. Alors aujourd'hui, il me reste une grand-mère qui a 95 ans, qui est aragonaise d'origine. Les trois autres nous ont quittés, mais c'est vrai qu'il y a une quinzaine d'années, je dirais, j'ai pris mes grands-parents maternels, François et Araceli, Francesca et Araceli. On est partis tous les trois dans ma voiture. Et on est reparti sur ces routes qu'ils avaient empruntées à pied en 1939. On a revu les maisons qu'ils avaient dû quitter au milieu de la nuit pour fuir. Voilà, c'était un moment très très fort. On est descendu par la Catalogne du côté de chez mon grand-père. On est remonté par l'Aragon du côté de chez ma grand-mère. Et ça a été très fort de vivre ça avec eux parce que voilà, on est rentré dans la maison, dans le moulin à côté de Figueras que mon grand-père et sa famille ont abandonné le 7 février 1939. Et du coup, il y a eu une forte, forte émotion. Et c'est vrai que pour moi, ça a été un déclic de me dire, voilà, il m'a transmis ça à l'aube de ses 90 ans. Moi, je l'ai pris, je l'ai digéré, j'ai eu envie aujourd'hui de le proposer sur scène.
Entre chansons espagnoles de l'époque, création originale en français et en occitan, on vous retrouvera sur la scène de théâtre Le Florida de Cette-Fons ce vendredi, donc à partir de 21h, dans le cadre du rendez-vous des mémoires. La compagnie Lopez pour ce spectacle, Exil et transmission autour de la convivienne. Tiens, merci beaucoup, Guillaume Lopez, et à vendredi alors.
Merci à vendredi.
Ser matador como el Perico C y Vicente Pastor. Yo quiero ser el mejor y lo tengo que ser con Estíbaro. No tengo miedo a luchar y el peligro arrastraré, pero sé que mi signo es triunfar. Y muy pronto triunfaré. Ya oigo con emoción al pasar por ahí a la salva afición saludándome así. Torero de garbo y sarero y el del capote bordado con yerba de mil luceros. Torero de rumbo y tronillo. Torero de Iván Gallardo abandonó la vida. Torero de Paque y Sorera, a ti la gente por lo valiente ya te aclamó. Cuando tirando te va a matar, marcando lento el volapié de aquel torrito de muerto herido, rueda tu pie, vamos ya.
La compagnie Lopez pour le spectacle Exil et Transmission. La compagnie Lopez invitée pour les rendez-vous des mémoires, 10e édition de cette manifestation organisée par l'association Pierre Nègre à Cette-Fons, donc vendredi et samedi. Retrouvez toutes les infos sur le site internet de l'association Pierre Nègre.
CFM Kélus. Le mag.
Et dans ce mag, on prend maintenant la direction de Montricou et Bruniquel à propos d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur qui est en cours. On parle urbanisme, architecture et patrimoine avec notamment le service inventaire du patrimoine du Pays Midi-Quercy. Léa Gérardin-Macario y est archéologue du bâti. Bonjour Léa.
Bonjour.
Qu'est-ce que c'est qu'un plan de sauvegarde ?
Alors, un plan de sauvegarde des mises en valeur, c'est un document d'urbanisme qui prend de nombreuses années à mettre au point. Et l'objectif, ça va être de trouver des solutions, un ensemble de règles pour protéger et mettre en valeur une architecture locale, donc à Montricou et Bruniquel, et de s'adapter vraiment au cas par cas du patrimoine local.
Quand vous dites protéger, on entend contraindre hein, pour les propriétaires qui vont vouloir faire des travaux chez eux.
Alors, il y a en effet une partie de ce document, donc c'est vraiment un document d'urbanisme, donc il y a une partie qui est contraignante pour les propriétaires, mais comme je le disais, ça va vraiment être du cas par cas. Chaque maison, en fait, nous, le service inventaire, on accompagne en fait le bureau d'études qui sont des architectes du patrimoine et architectes classiques. On va les accompagner et on va aller voir chaque maison, une par une, dans ces deux villages, rencontrer du coup aussi les propriétaires et on va essayer d'aller à chaque parcelle déterminer ce qui fait vraiment patrimoine à protéger et ce qui est moins à surveiller. Et donc parfois il va y avoir des parcelles où éventuellement il n'y aura vraiment pas grand chose à surveiller, voire pas du tout, et des parcelles où là ça va être ça va pas être la majorité mais quand même certaines où on va mettre une petite étiquette ou quelque chose qui va dire par exemple cette cheminée là vous pouvez pas la détruire mais vous pouvez refaire vos plâtres, refaire votre isolation, vous pouvez refaire vos fenêtres, tout ça, il n'y a pas de souci. Il y aura un ensemble de règles adaptées sur éventuellement des matériaux de préférentiellement à choisir, mais les gens pourront faire leurs travaux chez eux. Le but, c'est pas du tout de les empêcher de vivre dans leur maison. C'est au contraire, en fait, d'aller trouver un moyen que à la fois les gens puissent rénover leur maison, vivre dedans, et que la maison et le village en entier gardent une qualité architecturale et que des éléments patrimoniaux puissent être transmis aux générations futures aussi.
Autour du paysage, donc ça fait penser au travail que mènent les architectes de Bâtiments de France qui vont déterminer à quel moment on peut repeindre nos volets plutôt de ce ton de vert et non pas de celui-là, en peut-être un petit peu moins contraignant. Et puis concernant en plus le patrimoine en lui-même et sa dégradation.
Donc en effet, en fait, ce plan de sauvegarde des mises en valeur, en réalité, il est suivi par l'ABF, donc l'architecte des bâtiments de France. Et en fait, ça va être pour lui un moyen, justement, plutôt que de, à chaque fois que les gens vont faire leur demande de travaux, que les propriétaires vont faire leur demande de travaux, plutôt que l'ABF doive se creuser la tête à trouver donner telle ou telle règle, là, il aura une feuille de route qui dira, cette maison, il y a ça à surveiller ou pas.
C'est un boulot titanesque là, de visiter chacune des maisons de Bruniquel et de Montricou en disant attention là c'est la cheminée, attention cet escalier, attention cette fenêtre ou ce vitrail, c'est
oui, exactement.
Énorme.
Alors c'est pour ça que nous, service inventaire, on accompagne ce travail parce que c'est l'occasion pour nous donc de travailler avec les architectes pour leur faire part nous de notre savoir puisqu'on connaît déjà quand même assez bien ces deux villages, même si on les connaît pas parfaitement, mais on les connaît déjà assez bien. Donc on leur transmet, nous, notre savoir, les endroits où on sait déjà les choses à surveiller et à mettre en valeur. Et ensuite, en même temps, en contrepartie, comme on va toquer chez tout le monde et qu'on rentre chez tout le monde, ça nous permet de découvrir des choses qu'on ne connaissait pas du tout et de pouvoir, nous travailler dessus, les étudier, à minima faire quelques photos et donc parfois faire des études un petit peu plus poussées et éventuellement, pour certains propriétaires, les accompagner eux aussi quand ils veulent en savoir plus sur leur maison, mais aussi quand quand ils ont des questions, comment restaurer cette cheminée en briques. J'ai une peinture murale ancienne du XVIIe siècle chez moi. Alors, ça peut paraître des préoccupations incroyables, mais en fait, dans des villages comme Montricou ou Bruniquel, c'est des choses qui arrivent et qui arrivent même parfois souvent de se retrouver avec dans son grenier ou quand on enlève un placo, paf, derrière, qu'est-ce qu'il y a? Un an du pain du XVIIe siècle. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Et bien justement, nous, on va pouvoir les accompagner un petit peu, leur donner quelques pistes, soit s'ils veulent le faire étudier, le faire restaurer, ou au contraire, ils ne veulent pas le garder visible, on va leur proposer quelques solutions pour éventuellement le masquer sans porter atteinte au patrimoine non plus. Donc voilà, essayer de trouver des solutions dans chaque maison.
Bruniquel et Montricou n'ont pas été choisis au hasard donc pour ce plan de sauvegarde et de mise en valeur, puisque ce sont deux villages médiévaux qui comportent énormément de patrimoine à sauvegarder. Alors, c'est une étude qui est en cours là, autour du patrimoine bâti, pour donc édifier ces règles de protection, on l'a dit, au cas par cas, autour donc de la rénovation des maisons de Bruniquel et Montricou. On en est où là, concrètement? Ça va prendre un temps fou.
Oui, ça va prendre du temps. Donc voilà, il y a toutes les parties très administratives qui ont été en grande partie faites, puisque c'est mis en œuvre par l'État, ces documents. Donc là, on est passé dans la partie étude. Donc on est sur le terrain avec les architectes, on va de maison en maison. Donc on étudie vraiment ce patrimoine-là, qui va nous permettre ensuite, dans un deuxième temps, d'édicter les règles. Alors ces règles, on ne va pas les édicter, c'est pas nous, Service Inventaire, ça va être les architectes qui vont travailler avec l'architecte des bâtiments de France. Ils vont aussi travailler avec une commission locale qui sont des habitants. Un ensemble d'habitants des villages. Il va y avoir aussi des consultations avec tous les habitants des deux villages. Donc tout ça va être fait pas à pas, à chaque fois en invitant les habitants à prendre part à la création des règles communes et particulières. Voilà. Et après, il faut savoir que nous, toutes ces études à la parcelle, tout ce qu'on visite chez les gens, ça reste confidentiel. Ça sera des documents d'urbanisme qui seront vus exclusivement par les agents qui s'occupent de ça et notifiés aux propriétaires, mais ce ne sera pas visible par tout le monde. Voilà.
Avant qu'on rentre en studio, Léa, vous avez parlé de ce plan de sauvegarde et de mise en valeur comme la propriété comme bien commun. C'est vraiment la préservation d'un paysage qui est proposé là.
Oui, voilà, l'idée c'est en fait en édifiant des règles comme ça pour essayer de garder une qualité architecturale et préserver un patrimoine, c'est d'aller au-delà de se dire que, bon, certes, on a une maison, elle est à nous, c'est chez nous, mais elle fait partie d'un ensemble, un village où on vit tous ensemble et où ça va être cette qualité d'architecture et le fait de pouvoir l'améliorer qui va faire qu'on a un bien commun qui nous est à tous et une qualité de vie à tous dans ces villages. Et je dis nous parce que moi j'habite aussi dans ces villages-là et donc ça me touche aussi de se dire qu'on va tous ensemble faire en sorte que nos villages soient agréables à vivre et qu'ils soient aussi transmis à nos enfants et qu'ils restent agréables pour encore des générations.
Les habitants de Bruniquel, de Montricou, peuvent s'attendre à venir voir toquer chez eux. Donc, les architectes, vous, au service inventaire du patrimoine du PMI d'Icercy, avoir quelques réunions, fleurir. On est vraiment sur l'étude. C'est vraiment du pas à pas. Ça va prendre quelques années. Et peut-être que ça voudrait le coup d'élargir ce plan de sauvegarde et de mise en valeur sur d'autres villages, je pense villages médiévaux tels que Saint-Antonin ou même Caylus.
Oui, absolument. C'est déjà à l'étude. Hein. Ces villes ont déjà été moteur là-dedans et elle continue à étudier la question. Après, c'est des plus grosses villes, donc ça va mettre un petit peu plus de temps à ce que les choses avancent, mais en effet ce serait un avenir très prometteur pour ces deux villes-là aussi.
Patrimoine, architecture, sauvegarde et mise en valeur avec donc ce nouveau document d'urbanisme qui est en cours du côté de Montricou et de Bruniquel. Plus d'infos à venir dans la boîte aux lettres des Montricou nés et des
Bruniquelois.
On les salue. Merci beaucoup Léa Gérardin Macario, archéologue du bâti pour le service inventaire du patrimoine du pays Midi-Quercy.
Merci à vous, à bientôt.
Restez pour la suite du MAG depuis CFM Montauban avec Rémi. Ce sera juste après les infos tout de suite. Le MAG depuis Caylus, ce sera comme d'habitude rediffusé à 18h et à 21h et à réécouter en podcast sur notre site cfmradio.fr.